Louange et remerciements soient rendus au Seigneur pour tous ces précieux cantiques que nous pouvons chanter pour la gloire de son nom, et aussi pour comme les compositeurs de cantiques ont exprimé certaines pensées qui ont été transmises par l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons nous en nourrir et nous souvenir de beaucoup de choses par ces paroles. Et nous ne voulons pas oublier d'apporter à notre Seigneur l'honneur, l'adoration, la louange, le craindre, le servir, oui, dans ce temps, jusqu'à ce que nous le voyons dans la gloire. Louange et remerciements soient rendus à notre Dieu. Et c'est aussi la raison de notre rassemblement ce soir. Oui, nous sommes venus encore une fois pour l'adorer et aussi pour écouter ce qu'il a à nous dire par sa parole. Nous sommes convaincus de ce que nous ne recevons pas ici quelque chose à entendre d'un homme, mais plutôt du Dieu vivant. Et à ce Dieu vivant, nous voulons aussi élever nos voix, car nous savons qu'ici nous n'adorons pas un homme pour lui faire plaisir, mais plutôt Dieu pour sa gloire. Dieu à qui revient la louange et l'honneur. C'est à lui que nous voulons les offrir. Et avant que nous le fassions ensemble, je voudrais lire une parole de Job. Job était un grand homme de Dieu. Et nous voulons entendre quelques paroles qu'il a dit avant la prière. Et peut-être, certaines de ces paroles nous viendront, nous montreront à cœur pour que nous sachions comment nous présenter devant lui. Job chapitre 9, peut-être déjà à partir du chapitre 8, dès le verset 20. Job 8, verset 20. Non, Job ne rejette point l'homme intègre et ne protège pas le méchant. Tandis qu'il remplira à nouveau ta bouche de cris de joie et tes lèvres d'allégresse, tes adversaires seront couverts de honte et la tente des méchants disparaîtra. Et on continue au chapitre 9 de Job au verset 1. Job chapitre 9 verset 1. À cela, Job répondit ainsi. Certes, je sais qu'il en est ainsi. Et comment un homme pourrait-il avoir raison devant Dieu? S'il voulait contester avec Dieu, il ne pourrait lui donner aucune réponse à 1000 questions. S'il y a un qui est riche en intelligence et en puissance, qui l'a déjà défié et s'en est sorti sain et sauf. Il est celui qui déplace les montagnes sans qu'elles ne s'en aperçoivent, qui les retourne dans sa colère. Il fait trembler la terre de sa surface et il fait ébranler ses colonnes. Il ordonne au soleil de ne pas se lever et il met les étoiles sous un sceau. Il étend la voûte céleste, lui seul, et marche sur les flots de la mer. Il a créé l'astre de l'ours et de l'Orion, l'astre des sept étoiles et des chambres du sud. Il accomplit de grandes choses qu'on ne peut pas sonder et des merveilles qu'on ne peut pas compter. Voici, il passe devant moi, mais je ne le vois pas. Il s'en va, mais je ne l'aperçois pas. Verset 12. S'il emporte ou s'il prend, qui l'en empêchera? Qui lui dira, que fais-tu là? Verset 13. Dieu ne retire pas sa colère. Même ceux qui ont aidé Rahab ont dû s'incliner devant lui. Verset 14. Et moi, comment lui répondre? Quelle parole lui adresser? même si j'étais dans mon droit, je ne pourrais pas lui répondre, mais je devrais encore le supplier comme mon juge. Même si je le traînais en justice et qu'il me répondait, je ne croirais pas qu'il écoute mon plaidoyer ou ma voix. Non, il m'écraserait comme par une tempête et multiplierait mes blessures sans raison. Il ne me laisserait pas reprendre mon souffle, mais me rassasierait d'amères souffrances. S'il s'agissait de la puissance du fort, il dirait « me voici », et s'il s'agissait d'un procès, qui me fera comparaître. Même si j'étais dans mon droit, ma propre bouche devrait me condamner, et si j'étais innocent, il me ferait paraître coupable. Ce sont des paroles précieuses. Et je pense qu'il ressort de ces paroles, que Job a reconnu que Dieu est tout en tous. Et qu'il peut faire ce qui lui est agréable, et qu'aucun homme ne peut fondamentalement subsister devant lui. Et ici, nous avons entendu toutes les paroles qu'il a exprimées. Il a donné honneur, hommage au Créateur avec ses paroles, au Dieu vivant. Et il savait qu'il peut tout. Et nous aussi, nous savons de tout notre cœur et nous croyons qu'il peut tout. Il est capable de tout faire. Il dit, il passe devant moi et je ne le vois pas. Ça, c'est la chose. Nous pouvons penser qu'il ne nous entend pas, cependant il nous entend. Nous pouvons penser qu'il ne nous voit pas, cependant il nous voit. Ça, c'est le Dieu vivant. Et même si je voulais être dans mon bon droit, comme il a exprimé ici, mais ce n'est pas possible devant lui, devant Dieu, ce n'est pas possible. Non. Qui peut contester avec lui? Ce n'est pas possible. Nous aussi, nous ne pouvons pas. Mais nous nous rassemblons devant lui avec respect. Nous voulons louer son nom et lui apporter l'adoration et la gloire. Car à lui seul revient l'honneur, la louange, surtout dans nos jours. Job a connu beaucoup de détresse et de misère, mais nous savons une chose. Il n'a pas abandonné le Dieu vivant. Il a mis sa confiance en lui et il s'est appuyé sur lui jusqu'à ce qu'il soit secouru. Frères et sœurs, nous aussi, même si nous nous retrouvons dans certaines situations ou dans certaines circonstances, nous pouvons lui faire confiance et compter sur lui. Et peut-être que Job n'a rien vu, mais il savait quand même que son Rédempteur vit. Et nous aussi, nous savons que notre Rédempteur vit. Et nous pouvons lever les yeux vers lui et lui apporter la gloire et l'adoration, comme il est si merveilleux, il dit ici. Même s'il était dans son bon droit, Job serait considéré comme coupable et en cas de procès avec Dieu. Mais qui d'entre nous serait innocent? Personne. Mais nous pouvons dire, il a toujours raison. Et c'est ainsi que nous voulons le remercier et l'adorer. Levons-nous pour prier ensemble. Dieu fidèle, nous sommes réunis ici comme ton peuple, comme tes enfants, dans ton merveilleux et saint nom de Jésus. Seigneur, que pouvons-nous t'apporter? Où que sommes-nous devant toi? Quand nous nous regardons et regardons en nous, alors nous ne voyons rien de bon, ô Seigneur, ô Dieu fidèle. Mais nous nous humilions humblement devant toi, toi le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre et qui tient toutes choses dans ses mains, l'univers entier et tout ce qui se passe sur la terre. Même les royaumes et leur puissance sont entre tes mains, ô Seigneur, et tu peux conduire toutes choses comme tu le souhaites. Dieu fidèle, je te remercie de ce que nous pouvons regarder à toi, te croire, t'adorer ce soir aussi. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Ton peuple et tes enfants se sont rassemblés ici, ô Seigneur, pour t'offrir l'adoration et la louange, ô Seigneur. Reçois-le, ô Seigneur, de notre bouche et de nos cœurs à tous, ô Seigneur. Nous voulons le faire du fond de notre cœur. Nous voulons t'adorer, te louer. Toi, notre Dieu, alléluia, louange et honneur, gloire et action de grâce te soient rendues pour ta grande grâce, pour ton grand amour qui nous a portés jusqu'à cet instant et jusqu'à cette heure, Seigneur. Et ce n'est pas seulement nous, Seigneur, mais avec nous, tout ton peuple, ô Seigneur, que tu porte sur tes ailes d'aigle. Nous t'adorons et nous te remercions et nous louons ta présence. Seigneur, même si nous ne ressentons pas ta puissance, tu es cependant présent et tu es si merveilleux. Alléluia. Nous louons ta grâce. Nous t'adorons. Nous te prenons au mot par la foi, ô Seigneur, et nous te faisons confiance de tout notre cœur ce soir aussi afin que tu nous bénisses pleinement au-delà de ce que nous demandons et pensons dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louange et remerciements au Seigneur pour le privilège que nous avons d'être ici, pour adorer. C'est le plus grand cadeau que nous avons sur terre, que Dieu nous a donné, ou que Dieu nous ait accordé de pouvoir croire. Et nous savons en qui nous croyons. Nous savons ce que nous croyons. Et nous savons aussi ce qui nous attend lorsque ce pèlerinage sera terminé. Nous savons que nous verrons ce que nous avons cru ici. Amen. Nous savons que la parole de Dieu ne retournera pas à vide, mais qu'elle accomplira toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Nous voulons faire partie des personnes qui croit du commencement jusqu'à la fin. Et nous avons en effet eu le thème « Trois sortes de croyants ». Les uns sont les croyants et les non-croyants et aussi ceux qui se sont faits croyants eux-mêmes, les croyants fabriqués. Et nous avons entendu leurs caractéristiques et cela d'une manière tellement claire comme jamais auparavant. Et je crois que Dieu parle à nos cœurs et que chacun a la possibilité de s'examiner pour savoir à quel niveau il se situe. Et j'ai parlé avec un frère et il a dit oui. Si la chose est ainsi et que nous croyons à la prédestination, alors je n'y peux rien. Il a dit à peu près comme ça, ou peut-être que je n'ai pas bien compris, mais j'ai dû lui dire, nous n'écoutons pas les prédications pour être figés ou pour rester dans notre état, mais nous écoutons les prédications pour qu'elles nous interpellent et que Dieu puisse manifester en nous et à nous amener là où il veut que nous soyons. Alors que personne ne dise, bon, si la chose est ainsi, alors je ne suis pas, ou alors je me vois maintenant classé ici de cette manière, et la chose est terminée. Non, elle n'est pas encore terminée, loin de là. Nous vivons encore dans le temps de la grâce. Et tant que nous vivons dans le temps de la grâce, l'affaire n'est pas terminée pour toi en tant qu'enfant de Dieu. L'affaire n'est terminée que lorsque Dieu a pu t'amener là où il veut que tu sois et pas avant. Et vous savez qu'il est tout simplement important que sous la proclamation de la parole de Dieu, nous puissions reconnaître nos propres pensées et parfois même les pensées de l'ennemi et les mettre de côté et dire, Seigneur, tu m'as parlé. Voici les caractéristiques. Oui, je les vois. Et nous ne voulons pas les ignorer. Mais tu ne m'as pas parlé pour me laisser maintenant dans cet état. Mais tu nous as parlé pour nous tendre tendre la main pour nous aider, pour nous faire passer d'un état à un autre. Amen. Et soyez un peu honnêtes. Nous sommes ici sur la proclamation de la parole de Dieu. Et ce n'est pas pour dire, oui, maintenant, je suis au milieu de ce groupe ici, et j'ai fait ceci, et j'ai fait cela, ainsi de suite. Et c'est ce que l'ennemi aimerait voir, que nous soyons confus. Mais aucun de ceux qui fait confiance au Seigneur ne sera confus. Aucun. Et il y a le mot « aucun ». Et vous devez le croire. Quand la Bible dit « aucun », et il fait référence à Romains 10, 11, « quiconque met sa confiance en Dieu ne sera point confus », alors cela signifie « aucun ne sera confus ». Oui, louange et remerciement. Sœur Rouske, il en est ainsi. Tu es assez grande pour pouvoir le dire. Et nous sommes reconnaissants à Dieu, et ce de tout notre cœur. Imaginez que nous venions sous la proclamation de la parole et que nous reconnaissions qui nous sommes, ce que nous sommes, comment nous sommes et que nous devrions aller et rester dans cet état. Ce serait une honte, un tourment, une détresse. Ce serait une misère. Non, ce n'est pas pour cela que la parole de Dieu est proclamée. Ce n'est pas pour cela que la grâce de Dieu nous est manifestée. Elle nous est manifestée pour nous tendre un miroir et nous atteindre pleinement par la parole. Mais aussi pour nous aider pleinement et nous faire accéder à l'état dans lequel Dieu veut nous avoir. Et même avec la prédication la plus tranchante, il reste une espérance joyeuse et une confiance en Dieu que nous pouvons surmonter toutes les détresses parce que nous plaçons notre confiance en Dieu. Si nous la plaçons, notre confiance, en nous-mêmes, il n'est pas écrit « quiconque qui met sa confiance en lui-même ». Non, ce n'est pas écrit comme ça. Mais il est dit dans Romains 10, verset 11, « quiconque met sa confiance en Dieu ne sera point confus ». Et puis ce soir, nous nous demandons « en qui, toi, moi, nous avons mis notre confiance ?» Si nous l'avons placée en Dieu, alors il en sera ainsi pour l'éternité que qu'aucun ne sera confus. Et c'est ainsi que nous nous avançons dans la foi avec notre Seigneur et vivons dans la confiance qu'il peut nous accorder les choses qui ne sont pas encore comme elles devraient être. Et au cours de la conversation avec le frère, la pensée suivante a également été mentionnée. Oui, maintenant, si quelqu'un avait un, il s'arrête là. Vous savez, frère Branham a effectivement mentionné ce nom de Judas plusieurs fois dans la prédication. Et il l'a présenté comme un homme qui a participé jusqu'à ce qu'il pensait avoir trouvé quelque chose. Et ensuite, il s'en est allé. Il y a une grande différence entre le fait d'être entraîné simplement dans une chose et le fait de l'être ou d'être personnellement impliqué. C'est une grande différence. Nous le savons bien, lors de la crucifixion, il y avait beaucoup de personnes qui accusaient, qui faisaient ceci ou cela. Mais avec ce nom, il n'y avait qu'un seul, le nom de Judas. Les autres ont été, pour ainsi dire, entraînés dans l'histoire globale. Et c'est ainsi que nous devons discerner et savoir que Dieu nous parle pour nous aider. Ne croyez pas que Dieu se donne de la peine pour nous ôter notre espoir à toi et à moi. Non, Dieu se donne de la peine pour nous donner à toi et à moi une espérance vivante et une foi vivante en sa parole, en sa présence, en son pardon, en sa grâce. Et combien de fois l'avons-nous dit? On pourrait presque en rire à haute voix. Mais je ne veux pas utiliser un mot inadéquat. Mais même si toutes les choses sont difficiles dans la vie, un homme qui a été gracié par Dieu, qui a reçu le salut, C'est un homme qui a des raisons d'être joyeux et reconnaissant. Dans toute misère, dans toute détresse, nous ne devons jamais oublier ce que Dieu a fait pour nous. Psaume 103, verset 1. Mon âme loue le Seigneur, et tout ce qui est en moi loue son saint nom. Verset 2. Mon âme loue le Seigneur. Verset 3, il coupe le verset 2. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il est dit ailleurs, psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. Cet homme de Dieu a utilisé chaque occasion pour chanter un nouveau psaume à la gloire de son Dieu. Et il a accordé la harpe et a chanté et a joué. Je le répète, il aurait pu être le premier à jeter l'éponge. Quand je suis entré dans la salle, j'ai entendu le cantique de la moisson. Je ne peux pas m'empêcher, mais il y a des cantiques avec des paroles glorieuses, mais avec des mélodies inadéquates. Mais il y a aussi des cantiques avec des paroles glorieuses, avec des mélodies exactement adéquates. Mais comme je ne suis pas musicien ou chanteur, je ne peux pas me permettre un jugement. Mais je pense que David, particulièrement, qui a dû faire face à tant de choses, est devenu pour nous un exemple, ou l'exemple numéro un, dans toute la Bible. Et dites-moi s'il y a un domaine qu'il n'a pas chanté. Dites-moi si tout ce que la vie humaine peut comporter n'a pas été rapporté, mis par écrit dans tous les psaumes, et s'il n'y a pas dans tout un psaume qui parle ou qui traite de ce par quoi les hommes doivent passer, peuvent passer dans cette vie. Et cependant, je le répète, chaque fois, par la grâce de Dieu, il a saisi chaque occasion pour chanter à nouveau un nouveau psaume à son Dieu. N'est-ce pas là une grâce de Dieu? Qu'en est-il de toi et de moi? Ils ont chanté la grâce et nous l'avons expérimenté et reçu. Ils ont prophétisé sur le salut. Nous l'avons expérimenté et reçu. Devons-nous rester derrière eux ou alors devons-nous chanter avec eux? Nous avons lu ici l'histoire de Job. Il était certainement l'homme le plus éprouvé de tout l'Ancien Testament. Et nous l'avons bien retenu de la prédication de ce week-end lorsqu'il a été dit, tant que le diable, peut nous faire croire que c'est Dieu qui nous frappe, que c'est Dieu qui nous harcèle, ainsi de suite, alors l'ennemi joue facilement avec nous. Mais si nous reconnaissons que ce n'est pas Dieu qui nous frappe, mais que c'est l'ennemi qui nous frappe et que Dieu est là pour nous aider, alors la situation change. Sinon, nous serons intérieurement révoltés contre Dieu parce que nous pensons que c'est lui qui, d'une manière ou d'une autre, déverse sa colère sur nous. Non. La Bible dit effectivement dans Job que Satan se retira de la face du Seigneur et frappa Job d'un ulcère malin. Job chapitre 2, verset 7. Tout ce qui n'apporte pas, la bénédiction ne vient pas de Dieu. De Dieu viennent tout ce qui est bien et tout don parfait. Toute détresse, toute misère et tout ce qu'il y a d'autre ne peut venir que d'où cela vient. Mais comme je l'ai dit, de Dieu ne peut venir que ce qui est parfait, ce qui est bon, la bénédiction, le salut, la grâce, la miséricorde, le pardon, de la plénitude de ce qui est en lui. Dans ces paroles que nous avons lues ou que nous venons de lire dans Job chapitre 9, beaucoup de choses attirent mon attention, mais en particulier le verset 3. Job 9, verset 3. S'il voulait contester avec Dieu, il ne pourrait lui donner aucune réponse sur 1000 questions. Quand on entend parfois les gens parler, et combien de réponses ils ont, ils ont plusieurs réponses à une question. Une seule réponse ne suffit pas. Ils en ont toujours plusieurs. Car il faut tenir compte du fait qu'il y a 4 points cardinaux. Mais bien aimé, dans la présence de Dieu, tout est très différent. Et nous sommes placés chacun de son côté dans la présence de Dieu. Nous ne nous tenons pas les uns devant les autres. Mais nous nous tenons chacun devant Dieu. Et qui veut lui répondre? Et si nous voudrions lui répondre, alors notre réponse serait de toute façon inutile. Je suis si heureux que nous n'ayons pas besoin de répondre du tout, mais que Dieu nous a donné sa réponse par grâce. Et savez-vous, c'est devenu tellement grand pour moi, par les prophètes, Dieu a parlé et parlé. Mais en Christ, le discours de Dieu est devenu réalité. Il était la réponse à tout le discours tout entier de Dieu. Et il en va de même pour nous. Nous ne pourrions pas donner une réponse à 1000 questions. Mais si nous nous comportons comme les amis de Job, ils ont toujours répondu de manière si juste. Et qu'est-ce que c'était? C'est seulement à leurs propres yeux qu'ils étaient justes. Mais à la fin, Dieu dit à Job que les trois hommes n'ont pas parlé aussi sincèrement que lui, Job. Va, dit-il à Job, et intercède pour eux, et prie pour eux. Qu'est-ce que c'était? Ils avaient tellement de réponses. Certains d'entre elles sont ici. Mais je ne sais pas si toutes leurs réponses sont ici, dans la Bible. Cela m'étonnerait. Mais il y en a certainement ici. Mais aucune d'entre leurs réponses n'était correcte. Ce n'est que lorsque Dieu s'est révélé à Job et qu'il a parlé du milieu de la tempête et qu'il a vu sa gloire. Ça, c'était la réponse. Tout le reste, on n'en aurait pas eu besoin. Et il en va de même pour nous tous. Nous ne sommes pas ici pour nous répondre les uns à l'autre. Nous ne sommes pas ici pour nous instruire, pour nous enseigner les uns les autres. Mais nous sommes ici pour recevoir ensemble la réponse de Dieu. Recevoir ensemble l'enseignement de Dieu. Recevoir ensemble les instructions. Tout recevoir ensemble de Dieu. Il est écrit ici dans la suite du verset 3 de Job 9. Il ne pourrait lui donner aucune réponse à 1000 questions. Parfois, je m'imagine le jugement devant le trône blanc. Et la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 20, verset 11, « Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux devant lui. » Apocalypse 20, verset 11. « Qui est l'homme? Qui es-tu? Qui suis-je? Comment est-ce que cela sera un jour? » Quand celui devant qui le ciel et la terre s'enfuient, quand il s'élève, tout recule, et que les hommes devront paraître devant lui, qui aura là alors quelque chose à dire? Tous les grands de la terre, ils ne pourront rien dire. Mais remercié soit Dieu, de ce que tous les enfants de Dieu ne comparaîtront pas devant le troublant. Car il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, que nous sommes passés de la mort à la vie et que nous n'entrerons pas en jugement. Jean 5, verset 24. Remercié soit le Seigneur. Si nous devrions comparaître devant le tribunal, celui du trône blanc, il n'y aurait aucun espoir. Mais il y a un qui est venu, et notre jugement est tombé. Notre condamnation est tombée sur lui. Le jugement de Dieu, qui s'est abattu sur l'humanité, est tombé sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il est dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et martyrisé. Selon Ésaïe 53, verset 4. Cependant, c'est à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions, qu'il a été blessé, frappé et martyrisé. Et c'est par ces meurtrissures que la guérison nous a été accordée. Selon Ésaïe 53, verset 5. Remercié soit le Seigneur, notre Rédempteur, pour cette grâce. Et la grâce est quelque chose d'immérité qu'il nous a donné. Il a pris notre place en tant que fils de Dieu pour tous les fils et les filles de Dieu. Celui qui a saisi une fois correctement la rédemption et le prix qui a été payé pour cela, alors tout est fait. Tout est fait pour celui-là. Bien-aimés, nous ne venons pas ici pour recevoir une religion. Nous ne venons pas ici pour trouver une quelconque direction de foi. Nous venons ici pour faire l'expérience de Dieu. Nous venons ici pour voir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme le crucifié, comme celui qui nous a rachetés, qui nous a fait grâce, qui nous a aimés. Je souhaiterais que Dieu me donne encore une fois l'occasion de proclamer ce si glorieux évangile de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, j'ai visité beaucoup de pays et quand on regarde les autres religions, elles sont toutes des philosophies, mais aucune d'elles n'a l'évangile. Aucune d'elles n'a la bonne nouvelle. Aucune n'a le salut. Aucune n'a le pardon. Aucune n'a la vie éternelle. Tous sont des philosophies mortes. Quelle grâce nous a été accordée d'avoir un glorieux évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, amen, qui est venu pour nous racheter. Et si nous avons saisi cela par la foi, alors nous avons été saisis par lui. Et alors, nous ne pouvons pas nous empêcher de le remercier de tout cœur. En sa présence, et quand il nous demandera des comptes, nous ne pourrons pas répondre à 1000 questions. Ou à qui que ce soit qui sera là. Et nous devrions déjà nous comporter ici, sur la terre, comme cela sera un jour là-bas. Nous devrions accepter la réponse de Dieu et le remercier de ce qu'il nous a répondu en Jésus-Christ, notre Seigneur. De ce qu'il nous a racheté et accorder sa grâce et de ce qu'il nous a accordé la vie éternelle. Brièvement, avant que nous ne prions, j'aimerais lire de Jérémie, de Lamentation de Jérémie. Oui, malgré tout, il y a encore bien des choses dont nous pouvons nous lamenter. Mais ici, dans Lamentation chapitre 3, nous lisons au verset 19. Lamentation chapitre 3, verset 19. Souviens-toi de ma misère et de mes égarements, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient sans cesse, verset 20, et est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les grâces du Seigneur ne sont pas encore épuisées. Sa miséricorde n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Verset 24, le Seigneur est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. N'est-ce pas là une parole glorieuse? Le même homme qui a parlé de la misère, de l'absinthe, du poison, le même homme dit, mon âme s'en souvient sans cesse et est abattue au-dedans de moi. Le verset 20. Mais, verset 21, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Qu'est-ce que nous repassons dans nos cœurs? Nos propres pensées qui peuvent nous faire tomber dans le désespoir? Ou prenons-nous à cœur la parole de Dieu qui nous relève, qui nous fortifie, qui nous affermit et qui nous fonde? Ici, cet homme dit, mon âme s'en souvient sans cesse et est abattue au-dedans de moi. Oui, notre âme est abattue en nous quand nous pensons en ceci ou à cela et à bien d'autres choses. Et dans la suite, il est dit au verset 21, voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les grâces du Seigneur ne sont pas encore épuisées. Les deux vont de pair, les deux marchent ensemble. L'un est lié à l'autre et l'un entraîne l'autre. Verset 21, la fin. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les grâces du Seigneur ne sont pas encore épuisées et sa miséricorde n'est pas encore à son terme. Si dans notre misère, nous pensons que les grâces de Dieu sont épuisées et que sa miséricorde est à son terme, et qu'il n'y a plus de grâce, alors nous allons sombrer dans le désespoir. Mais du fait que le Seigneur s'adresse à nous par sa parole, il est dit au verset 21, à la fin, ce qui me donne de l'espérance. Et verset 22 dit, c'est que les grâces du Seigneur ne sont pas encore épuisées. Sa miséricorde n'est pas encore à son terme. Verset 23, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. N'est-ce pas merveilleux? Alors nous pensons à la parole de l'apôtre Paul, dans laquelle il écrit, même si nous étions infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Selon 2 Timothée 2, verset 13. S'il nous régnait, toi et moi, il régnerait une partie des membres de son corps, des fils et des filles qu'il a lui-même engendrés, et cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Non. Sa fidélité demeure éternellement. Elle se renouvelle chaque matin et il dit, grande est ta fidélité. N'est-ce pas là une parole glorieuse? Et puis il est dit ensuite, au verset 24 de Lamentation, chapitre 3, le Seigneur est ma part, dit mon âme. Mon âme s'en souvient sans cesse et a abattu au-dedans de moi. Il reprend le verset 20 et le verset 21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera l'espérance. Non pas mourir dans l'espérance, c'est une espérance vivante, parce que celui qui est l'espérance est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. S'il n'était pas ressuscité d'entre les morts, nous serions morts dans notre espérance et nous pourrions être enterrés. Mais en ressuscitant d'entre les morts, il est devenu notre espérance. Et c'est pourquoi Paul dit ou écrit également, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Selon Colossiens 1, 27. Oh, quelle grâce nous a été accordée à tous. Il reprend le verset 23 de Lamentation 3. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, de quelle profondeur ont puisé ces hommes de Dieu. Comment ils se sont sentis quand ils prononçaient ces paroles. Leurs cœurs ont débordé. Ils avaient communion avec Dieu. Aujourd'hui, nos cœurs doivent déborder de louanges et de remerciements afin que nous puissions dire à notre Seigneur, ta fidélité est grande. Oh Dieu, tes grâces ne sont pas encore épuisées. Chaque matin, tu te révèles au tien nouvellement, Seigneur. Nous sommes ici pour te rendre grâce, pour te remercier. Dans nos prières, nous voulons aller droit au but et offrir à notre Dieu le remerciement qui lui est dû. Mais en toute simplicité et vraiment du fond de notre cœur. Car nous vivons dans la bienheureuse espérance que notre Seigneur et Sauveur reviendra bientôt pour nous prendre à la maison. À lui soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration de tout cœur. Amen. Levons-nous pour la prière. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur encore une fois, Seigneur. Reçois l'honneur, la louange, la gloire et l'adoration de nos cœurs et de nos bouches à tous, Seigneur. Car c'est pour cela que nous sommes venus ici, pour t'adorer, ô Seigneur, pour louer ton saint nom, car tu es notre Dieu. Alléluia. Tu as versé ton sang pour nous. Tu nous as rachetés, tu nous as libérés. Seigneur, nous sommes ton peuple, le troupeau de ta main. Ô Seigneur, loué soit ton merveilleux nom. Seigneur, nous ne sommes pas simplement quelque chose, mais nous sommes des rachetés, Seigneur. Nous sommes sauvés par grâce, Seigneur. Non pas par mérite, ô Seigneur. Non, mais Seigneur, tu a vu en nous quelque chose et tu nous as appelés par notre nom. Nous sommes devenus ta propriété, Seigneur, et c'est pourquoi nous te croyons et continuons à te faire confiance à travers tout. Quel que soit le chemin, Seigneur, nous levons les yeux vers toi et nous te prions de continuer à être avec nous et avec tout ton peuple, partout et en tout lieu, Seigneur. Bénis en particulier les réunions qui sont programmées, ô Dieu, et bénis aussi ton peuple, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen.